Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue la côté de la semaine, nous recevons Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Bonjour Madame Gaëlle Kibungu.
Bonjour Guinaté.
Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Bonjour Maître Frédéric Kwamba.
Bonjour Monsieur Guy Maté et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
En ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise de Mangaka, il est journaliste et spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Bonjour Josué Blaise de Mangaka.
Bonjour à Guy et à tous les auditeurs de Radio Okapi. C'est avec un plaisir.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine et l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afia Mama Asbel. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mangaka, qui est journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Au menu de cette émission, la première ministre consulte les partis et les groupements politiques en vue de la formation du prochain gouvernement, les tractations pour la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale et enfin l'élection du prochain gouverneur de Kinshasa. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la situation humanitaire dans le Nord Kivu. En effet, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a attiré mercredi 17 avril l'attention de la communauté internationale sur la situation tragique qui sévit dans la province du Nord Kivu. Ce haut fonctionnaire de l'ONU l'a dit lors de sa visite au camp des déplacés de Boulengo dans l'ouest de la ville de Goma. Volker Turk a affirmé que ces déplacés lui ont exprimé leur besoin de retourner dans leur village et retrouver leur vie d'antan. Une situation qui ne peut être rendue possible que par la restauration de la paix et par la fin des violences. Que ces conflits s'arrêtent et que tout le monde qui exerce une influence sur les groupes armés pour que la violence s'arrête a demandé ses hauts fonctionnaires de l'ONU. Dans son périple, dans cette partie de la RDC, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a été accompagné par la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta. Madame Gaëlle Kibungu, comment vous réagissez à cette sonnette d'alarme que tirent les hauts commissaires sur la situation humanitaire précaire des déplacés du Nord Kivu?
Bon, au cri de détresse que la population congolaise ne cesse de lancer, et cela depuis des décennies, face à une hypocrisie internationale, face à une hypocrisie africaine, certains pays de certains voisins qui restent insensibles à cette situation, autant de morts, autant de femmes violées, une situation humanitaire qui est désastreuse, mais pour des intérêts économiques, on continue à nourrir cette guerre qui est connue, qui est alimentée et est faite par le Rwanda sur même le terrain des affrontements. Donc je crois qu'il est temps, c'est bien que ça sorte de la bouche des Nations Unies, mais il faudrait que ça soit concrétisé, parce qu'on sait tous d'où vient cette guerre. Elle est entretenue par les multinationales qui en ont après nos richesses naturelles et stratégiques, donc il faudrait que ça s'arrête. À un moment donné, on doit se rendre compte que c'est la vie de personnes humaines. Les Congolais sont décimés par cette guerre. À Kinshasa, certains se disent, bon, tant que ça dure et que c'est loin, certains ont encore le courage même d'aller s'allier à des rebelles parce qu'ils sont voilà, déçus par la politique. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table et puis continuer à crier, à crier, à crier. Les cris de détresse ne se sont jamais arrêtés. Ce n'est pas une situation nouvelle. Il faudrait vraiment arrêter. Le gouvernement congolais ne cesse d'ailleurs d'appeler la communauté internationale à prendre des décisions, des sanctions envers le Rwanda, ce qui est toujours attendu d'ailleurs. Donc ce cri de détresse devrait plutôt se matérialiser en sanctions pratiques pour mettre fin à cette guerre. Parce que ça ne va pas s'engager à tuer de la même façon que le Rwanda, parce que nos vies sont précieuses, les vies des êtres humains sont précieuses. Et en République démocratique du Congo, on sait bien que s'il y a offense, beaucoup plus de population dans l'est de la RDC. Donc il est temps, au-delà de ces déclarations, d'aller dans des choses pratiques, des sanctions. Nous attendons des sanctions effectives. Arrêtez, arrêtez, arrêtez que ces multinationales puissent arrêter d'entretenir et de tirer celles, parce que juste elles profitent de ces éléments, de ces richesses stratégiques que leur fournit le Rwanda, qui n'est pas détenteur de ces richesses, tout le monde le sait. C'est la République démocratique du Congo qui renferme métaux précieux aujourd'hui qui sont utiles pour grandes industries internationales. Donc on arrête d'être derrière le Rwanda, de se cacher derrière le Rwanda et tuer ces millions de Congolais et les laisser vivre dans des situations inacceptables. Des gens qui sont déplacés, on sait que les femmes et les enfants sont les plus grandes victimes dans ce genre de situation. Ils ont quitté leur maison depuis des décennies, ils sont en train d'errer partout et c'est une situation devant laquelle beaucoup restent encore insensibles. Donc vraiment, moi je crois que il ne suffit pas de le dire, il faudrait matérialiser ça en sanctions pour que, enfin, la RDC puisse avoir gain de cause.
Merci, Maître Frédéric Kwamba. Évidemment, il n'y a pas que le Nord Kivu. Hein. Il y a aussi, n'est-ce pas, les déplacés à Ituri et aussi ceux des conflits Tekeaka et aussi du conflit entre Mbole et Lengola à Kisangani. Et la question que l'on peut se poser, c'est celle de savoir pourquoi on n'envisage pas aussi d'organiser une sorte de conférence internationale des donateurs sur la crise humanitaire en RDC. On se rappelle que récemment, pour les Soudans, les bailleurs se sont engagés, n'est-ce pas, de débourser environ 2 milliards d'euros d'aide humanitaire. Pourquoi on ne peut pas envisager de telles initiatives pour les déplacés de la RDC?
La République démocratique du Congo est considérée comme un État orphelin sur le plan international. Parce que si nous voyons les enjeux de l'heure, si nous voyons ce qui se passe ailleurs, la société internationale, parfois, comme vous venez de parler du Soudan, s'implique avec beaucoup plus d'efficacité dans le sens de tendre vers des solutions. Mais la RDC, c'est que plusieurs décennies, qui est un conflit, plusieurs conflits, comme vous venez de le dire, sont en train de rendre les populations plus vulnérables. Alors, pour initier une conférence de ce sens, nous devons avoir des alliés, même s'il faut que les bailleurs des fonds s'imprègnent. Cela doit partir d'une certaine solidarité internationale que peut-être nous peinons à avoir ou à gérer du fait du nombre d'ennemis contre notre pays. Et aujourd'hui, comme venait de le dire Madame Gaël, mais je ne veux pas que l'on parle seulement du Rwanda. Parce que à un moment donné, on a parlé de l'Ouganda, à un autre moment, on a parlé du Burundi, mais aujourd'hui, on semble ne plus parler de d'autres pays. Nous nous focalisons sur le Rwanda. Alors, ça nous inquiète un peu, parce que à un moment, on peut résoudre les problèmes contre le Rwanda, et on peut pouvoir se réveiller. Et vous venez de le dire aujourd'hui, il y a plusieurs conflits intercommunautaires au niveau de la RDC. Et il y a même des cas où les pouvoirs publics, donc la République démocratique du Congo, s'est impliquée.
Allô? Allô, Frédéric Kwamba, est-ce que vous êtes là? Voilà, apparemment il est parti. Josué Blaise de Magankak, ce n'est pas la première fois que les Nations Unies attire l'attention, n'est-ce pas, de la communauté internationale sur cette tragédie humanitaire, n'est-ce pas, qui se vit en RDC. Mais on ne sent pas de la part des bailleurs, on a dit ici, hein, une prise de conscience comme quand il s'agit des crises qui affectent d'autres pays. Peut-on parler d'une crise, si pas oubliée, mais une crise négligée?
Visiblement, ça peut être les deux termes comme ça peut être autre chose, parce qu'en réalité, vous savez, j'ai toujours dit aux Africains, le jour où eux-mêmes se prendront au sérieux, les autres les prendront au sérieux. Alors si déjà l'Union africaine passe le temps à ne pas prendre les propres sujets africains au sérieux, le problème congolais ne devrait pas être seulement un problème congolais ou congolais. C'est-à-dire c'est à l'Union africaine, à la SADC, à la CEAC, que reviendrait normalement la possibilité de saisir les instances onusiennes. Or, elles ne pèsent pas suffisamment sur l'échiquier mondial, elles ne se font pas respecter sur l'échiquier mondial, et le Congo lui-même devait déjà, avec son poids démographique, son économie qui devait déjà indiquer que c'est un pays à destination depuis le plan de Lagos, qu'on avait déjà pensé sur 5 ou 6 pays qui devaient déjà être des locomotives au niveau de chaque sous-région pour enfin faire un marché commun africain. Mais on a l'impression que depuis les années 80 à maintenant, on a passé de temps à faire plus de gesticulations que d'actions. C'est pour ça que les Nations Unies sont disposées plus aptes à aller traiter des questions au Kosovo, ailleurs, que sur le continent africain. C'est pas seulement le cas de la MINUSCO en RDC. La plupart des pays africains, hormis peut-être l'Afrique du Sud et quelques pays du Maghreb, le reste des pays africains sont de faire valoir parce que ces pays eux-mêmes ne se donnent pas de la considération. Et on a plus aujourd'hui sur le continent, plus l'impression à suivre le peuple qui est sur des sentiments anti-français, anti-ceci, pro-soviétique, pro-russe et tout. Ça, c'est de la rigolade. Faites d'abord de vos pays des économies stables, viables, avec des gouvernements solides, avec une société civile forte, avec des médias solides, avec des hommes politiques respectables ici et là. À partir de là, les autres vous respectent. Le reste, ce n'est que des pleurs de char.
Merci, on prend une petite pause avec Tout va changer de Michel Figuin. On revient juste après.
Changer ce soir, on prend un nouveau départ. La neige a blanchi le monde, les enfants sont pleins d'espoir. Tout va changer. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour que de là-haut te tombe en rafale une pluie de cadeaux sous un torrent d'étoiles. Demain il fera beau. Tout va changer ce soir, selon notre bon vouloir. Les rues seront des théâtres, on jouera sur les trottoirs. Tout va changer. Yeah. change de posture. Ce soir, la vie est belle.
C'était « Tout va changer », cette chanson d'espoir de Michel Fugain, ce chanteur-compositeur français qui, à travers ses classiques, pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Une façon pour nous de dire à tous les déplacés que les choses changeront un jour et ils les retourneront dans leur milieu d'origine. On revient à l'actualité de cette semaine. La première ministre Judith Suminois Toulouka souhaite former un gouvernement qui tienne compte de la réduction du train de vie du gouvernement. La probité et les compétences seront les critères essentiels dans la sélection des ministres. Elle a signifié aux représentants des partis et des groupements politiques qu'elle a consultés depuis la semaine dernière à Kinshasa en vue de la formation du prochain gouvernement. Au cours de ces discussions, la chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de réduire les trains de vie des institutions en formant un gouvernement de petite taille et investir notamment dans la réalisation du programme de développement local des 145 territoires. Josué Blaise Bangakak, vous êtes journaliste camerounais, spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Vous avez opté pour ce sujet. On peut savoir pourquoi?
Bon, en réalité, parce que c'est un sujet d'actualité brûlante et qui, au regard du temps que ça commence à mettre après l'élection présidentielle, on ne se serait pas en train de se poser les questions sur la nature du gouvernement en RDC. On a vu au Sénégal, c'est allé entre le 3, le 4, le 5 avril, on avait le premier ministre du gouvernement. Alors, qu'est-ce qui se passe en RDC? On a bien envie de savoir qu'est-ce qui se passe quand même. Un pays qui doit jouer le rôle de locomotive d'un pays phare sur le continent devrait quand même être aujourd'hui une affaire réglée. Donc, c'est pour ça que je me suis interrogé, en voulant interroger les auditeurs de Radio Okapi, pour qu'on se pose des questions essentielles et qu'on trouve rapidement la solution sur la question du gouvernement à RDC.
Justement, est-ce que vous comprenez les temps que cela prend? Vous comprenez pourquoi on traîne pour la mise en place de ces gouvernements? On sait que cette manière de faire, on a toujours recouru à ça dans ces pays, hein, depuis toujours, quand on forme les gouvernements, ça prend toujours beaucoup de temps. Mais est-ce que vous pensez que cette manière de faire est propre à la RDC ou vous avez aussi constaté dans certains pays africains, notamment les vôtres, les Cameroun, ce genre d'approche?
En réalité, c'est pas très courant dans tous les pays africains, hein, même en Afrique. Vous avez vu au Sénégal, on a fait moins d'une semaine, on avait le Premier ministre, on avait le gouvernement. C'est ce que nous attendons des pays africains qui veulent être des pays démocratiques. Bon, maintenant, les autres pays, je crois que même le Cameroun, qui souvent a l'habitude de traîner les pieds, ne prend pas autant de temps à choisir déjà le Premier ministre. L'originalité, c'est une femme, bravo. Mais après les effets de manche, les effets de séduction, on est en train d'attendre, c'est-à-dire que le faire et rester longtemps sans gouvernement, on dit aux Congolais, au monde entier, que le pays a atteint le fonctionnement automatique, c'est-à-dire qu'en RDC, on peut rester sans gouvernement, le pays, je ne sais pas s'il faut dire que ça fonctionne, ou on peut faire comme ça et puis rester. Ça, c'est pas une bonne lecture vue de loin. C'est-à-dire que ça renvoie une image d'un pays hyper présidentialiste, c'est-à-dire que tout est entre les mains du président, et comme depuis un temps il est plus à l'étranger là, et il n'y a pas de gouvernement, et le pays fonctionne, entre guillemets, fonctionne. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, pour nous Africains, ça donne une image loin de l'Afrique, comme quoi les membres du gouvernement sont beaucoup plus dans la coopération qu'autre chose.
Merci Gaël Kibungu, vous êtes journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Au moment de la formation de tous les gouvernements dans ces pays, on entend des déclarations telles que celles que tient Madame la Première Ministre, réduction de la taille du gouvernement, réduction du train de vie des institutions, beaucoup de promesses qui, par après, restent lettres mortes. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister au même phénomène avec Madame Souminois? Ne sera-t-elle pas butée à certaines réalités qui pourraient la pousser à revoir à la baisse ses ambitions?
Voilà, sans rougir, je dis que jusque-là, il est difficile d'y croire. Il faudrait vraiment que la première ministre lance ce signal fort. C'est bien de le dire, mais comme vous le dites vous-même, on l'a entendu plus d'une fois et c'est même allé de mal en pis. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est vraiment une réforme mentale qu'il faudrait au sein de la classe politique. C'est une question d'abord d'éthique, parce que là, on assiste toujours à ce partage de gâteaux. Les problèmes sont énormes, les défis sont énormes, mais je pense que les formations politiques n'ont pour ambition que de se retrouver et d'avoir leur part, parce que quand on suit bien ces consultations, il n'est question que de ça, c'est partage par-ci, partage par-là, alors que le bien-être de la population, justement, est axé sur autre chose. La population attend des effets immédiats et à long terme, justement, de l'amélioration de leur vie, de leur quotidien. Donc, je crois que les formations politiques, au départ, devraient avoir d'abord pour ambition de changer, de transformer cette société par la qualité, justement, de ceux qui vont apporter dans ce gouvernement et non par ceux qui vont en retirer. Là, c'est vraiment une guerre qui va se poursuivre et à ce jour, je trouve vraiment difficile pour la première ministre. Moi, je suis en train de me poser plein de questions. Comment elle va s'en sortir face à ces caciques de la classe politique qui ont des choses à réclamer? C'est bien de le dire, mais je pense qu'elle est vraiment... c'est une sorte d'impasse, en fait. Les consultations, ça prend du temps. Voilà pourquoi la formation du gouvernement prend un peu plus de temps. C'est des discussions qui vont tirer en longueur. Les gens ne se mettent pas toujours d'accord. Tel veut tel ministre, veut être vice-premier ministre, l'autre ceci. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel des questions sur lesquelles on devrait discuter aujourd'hui? Je crois que la classe politique, à un moment donné, devrait s'arrêter et pouvoir réfléchir sur les vraies questions. Et le chef de l'État devrait tabler sur ça. Aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. Ça va faire près de 100 jours que le président est à la tête de la République. Et là, on a attendu déjà le gouvernement, la première ministre depuis. Ça va faire, on a eu des consultations avec l'informateur. Ça a pris beaucoup de temps et tout est à l'arrêt. Hein. Il y a des ministres qui ont... On dirait peut-être pas de cumul parce que le président a fait un démenti par rapport à ça. Enfin, il a formalisé des choses, mais je pense que quand même, il est impensable aujourd'hui dans un pays où il y a des problèmes aussi énormes de pouvoir continuer à gérer les affaires de cette manière, les affaires courantes, etc. Mais il y a des problèmes cruciaux qui tous les jours sont le quotidien de la population. Donc il faudrait trouver des solutions. Et sans gouvernement, on ne peut pas avancer, ce n'est pas possible. Les fonctionnaires, il y en a qui ne sont pas payés, il y a des choses qui sont bloquées, des dossiers bloqués partout, parce qu'on attend une formation du gouvernement qui ne dépend que de la bonne humeur des patrons et des caciques des formations politiques. Je crois qu'au départ, c'est vraiment une question d'éthique politique. Il faut vraiment recadrer les choses pour pouvoir regarder dans la direction du bien-être général. Et là, je crois que ça va décanter les choses.
Voilà. Et qu'est-ce vous inspire le fait que, apparemment, dans les discussions avec la Première ministre, les hommes politiques mettent en exergue, n'est-ce pas, la composition du gouvernement, qui sera dans les gouvernements, ça sera quelle taille, ça sera de quelle taille, mais on évoque nulle part, n'est-ce pas, les programmes sur lesquels la Première ministre doit travailler.
On prend énormément de temps. Vous savez, même pendant les élections, le problème, la maladie congolaise, c'est vraiment ça. Quand on passe, par exemple, les élections, la campagne, etc., on prend du temps à tourner autour des individus, mais on n'a pas foncièrement le programme que ces personnalités présentent. Donc on vote des gens parce qu'on les aime bien, parce qu'ils sont présidents de nos partis, parce que, etc. On est dans l'émotionnel, mais on n'a pas vraiment de vote autour de programmes sûrs et costauds qui peuvent nous emmener à une bonne destination. Et ça, c'est une maladie qu'on devrait enrayer du système congolais. Ça, c'est vraiment un appel, en fait, général à la conscientisation, tant du côté de la population que de la classe politique. Aujourd'hui, nous, population congolaise, on devrait être capable à même d'imposer, justement, à ces dirigeants politiques de nous présenter des programmes clairs, non seulement pour les problèmes actuels, mais aussi avoir une vision stratégique des 5 ans à venir, des 10 ans, des 50 ans, que deviendra la RDC, que deviendrons-nous dans 50 ans, on ne le sait pas. Nous faisons des fois des gouvernements pour régler des problèmes, voilà, tout de suite, et après on ne sait pas où on va. Ça veut dire c'est vraiment une gestion au quotidien et à la va-vite et sans programmation pour les années à venir. Moi je pense que c'est de l'inconscience quand même populaire. Moi je pense que avec Madame la Première Ministre qui a une certaine expérience, notamment dans le domaine de la planification, on a vu par où elle est passée, etc. Il faudrait qu'elle emmène cette bonne nouvelle, les gens qu'elle va mettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une répartition, on ne peut pas s'en passer. La répartition politique, c'est obligé, on devra passer par là. Mais il faudrait que dans le choix des personnalités qui vont être dans ce gouvernement, qu'on choisisse des compétences, qu'on choisisse la technocratie, etc. Il ne faudrait pas que ce soit que des politiciens qui ne viennent pas s'en sortir dans des domaines clés de la République. Aujourd'hui, on a des besoins cruciaux dans le domaine de la technologie. On a des problèmes cruciaux dans le social, etc. Il faudrait qu'on ait des effets. La formation du gouvernement doit donner lieu à des résultats maintenant et dans les années à venir. On ne veut pas un gouvernement juste pour la consommation quotidienne, mais on veut un gouvernement qui va venir nous mettre sur pied une politique costaud pour redresser le pays et pouvoir nous donner un aperçu exact de ce qu'on, vers où on va dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Donc vraiment, je crois qu'il faudrait que cet individualisme, cet égoïsme politique soit un peu extirpé des Congolais. Quoi. Parce que là, on est en train de tourner en rond alors qu'on a vraiment besoin de solutions pour ce pays et pour la population qui ne crie qu'à ça.
Merci, Maître Frédéric Kouamba, membre de la société civile. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Madame Judith Souminois a demandé à chaque groupement politique de lui proposer 3 noms par poste ministériel. Et elle-même choisira, n'est-ce pas, une personne parmi les 3 noms proposés. On se rappelle que cette méthode avait été utilisée à l'époque par le gouvernement Gizenga 1. Mais on connaît la suite, hein. Ce gouvernement n'avait pas fait long feu parce que 8 mois après, il avait été remanié. Et ce sont d'ailleurs apparemment les personnes qu'on semblait éviter dans les premiers gouvernements qui étaient revenues à la charge parce que ce sont elles qui étaient nommées dans ce deuxième gouvernement Gizenga. À votre avis, que faut-il faire finalement pour avoir des personnes fiables avec qui on veut travailler?
Oui, Monsieur Maté, mon inquiétude, c'est une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi seulement les partis politiques? Parce que il n'y a aucun texte qui impose qu'un gouvernement ne soit constitué que des partis politiques. Ça, c'est la première des choses. Parce que nous connaissons les intérêts des partis politiques qui n'est autre que de se partager les postes, discuter sous la taille du prochain gouvernement et c'est tout. Et personne ne va s'intéresser au souverain primaire qui est le peuple et qui souffre de tout. Nous avons tous félicité le choix porté cette fois-ci en tant qu'activiste et défenseur des droits des femmes à une dame comme chef du gouvernement et lui avons souhaité un fructueux mandat. Mais il y a de crainte à croire qu'elle risque de subir ce que ses prédécesseurs ont subi et de tomber dans les mêmes résultats. Pourquoi nous disons ça? Premièrement, c'est la question du travail effectué par l'informateur. Nous nous sommes référés à nos textes. Aucun texte ne prévoyait le travail d'un informateur pour qu'on arrive à choisir la première ministre actuelle. Parce que si vous lisez l'article 78 de la Constitution, on nous dit que c'est seulement si le chef de l'État n'a pas la majorité au Parlement, qu'on peut recourir à un informateur qui va jouer le rôle de créer une coalition. Et cette disposition est claire. Mais pourquoi a-t-on, au lieu d'aller vite et à installer un gouvernement, nous sommes allés dans une léthargie pour perdre du temps inutilement. Et deuxièmement, la première ministre est désignée, elle va vers les partis politiques pour puiser les têtes connues et qui n'ont pas réussi de par le passé, vous venez de donner l'exemple du gouvernement Gizenga. Il y a des citoyens congolais qui ne sont pas dans les partis politiques, il y a la société civile, il y a des personnalités quand même qui peuvent aussi faire quelque chose pour ce pays, mais pourquoi on se détourne de toutes ces personnes-là pour retourner, aller vers ceux-là qui ne cherchent qu'à se partager les gâteaux et ne rien faire pour les autres.
Maître Kouamba.
Oui.
Oui, à votre avis, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour avoir des personnes fiables, hein, des personnes sur qui elle peut compter afin de faire son travail et de mettre en œuvre son programme?
Oui, c'est de s'informer à travers toutes les forces vives et non seulement dans les partis politiques. Parce que l'objectif des partis politiques, je venais de le dire, est connu. Mais il y a des organisations autres que les partis politiques qui regorgent des citoyens capables de travailler aussi pour ce pays. Pourquoi ne pas aussi puiser dans cette structure et de se focaliser sur le parti politique. Plus nous perdons le temps parce qu'il y a des discussions sur le partage de gâteaux et plus
elle aura trop peu de temps de travailler et au finish, nous allons retomber dans les mêmes résultats du passé.
Merci.
Moi, je pense que c'est l'unique schéma possible.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Comme vous le savez, c'est samedi 20 et dimanche 21 avril, l'artiste et musicien Hervé Ferregola se produira à la salle Adidas Arena de Paris. On va donc écouter une de ses chansons intitulée « Vie à zéro » et on revient juste après.
Yes, il a pour les prophètes, Luca Kaiser sauvé. Les mains vivantes, j'ai dans ma cagnaca, Marie-Josée Nzumba.
Bolingo, yes, il est mon délamaï, mon ayamawa, qui est un milambo. Mettez-vous à la vie, non, maï, caca bamboula, aïe, eh. Bolingo, yes, il est soin, comme il en a monté ma. Na mesa na na mawa, nzinzo na mesa na na moto ya mokola.
Hey mama, o kumi boya na kaka boya ni kamo na salite, s'il te plaît. Ele nyama imelango na posa, yosa na posa te.
Bolingo esi eswanga mino na moti ma pasi ebele.
C'est vrai.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire sur la situation humanitaire des déplacés dans le Nord Kivu. Nous avons également parlé des consultations de la Première ministre en vue de la formation du nouveau gouvernement. Participe à cette émission, Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe, il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mangaka, qui est journaliste et spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. L'Assemblée nationale a fait mercredi 17 avril dernier la répartition des postes entre la majorité et l'opposition au sein du bureau définitif. À l'issue d'une plénière qui s'est étendue jusque tard dans la soirée, les députés se sont accordés après vote sur une répartition conforme aux prescrits du règlement intérieur de la Chambre. La majorité s'est offerte des postes de président, premier et deuxième vice-président, rapporteur, questeur et questeur adjoint, alors que l'opposition, qui ne compte que 28 députés, se contentera uniquement du poste des rapporteurs adjoints. Après ces votes, les députés attendaient le calendrier électoral, mais le président du bureau provisoire a levé la séance sans avoir publié le calendrier, et cela malgré la protestation des députés. Maître Frédéric Kwamba, vous avez souhaité nous parler des tractations pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On vous écoute.
Oui, pour moi, c'était en rapport avec le temps qu'ils ont pris pour mettre en place ce bureau définitif. Ça m'a paru anormal parce que sous d'autres cieux, nous trouvons que le règlement intérieur de l'Assemblée demeure et traverse plusieurs législatures. Mais chez nous, premièrement, il faut commencer par, dès qu'il y a une législature nouvelle, nous commençons par refaire ce qui a été fait, et pendant ce temps, le travail qu'on attend du Parlement ne peut être fait. Et lorsqu'on arrive au moment d'installer les bureaux définitifs, la règle du jeu est connue. Ça ne peut pas demander trop de calculs, parce que là, c'est le jeu de la majorité qui prime. Au finish, ce n'est pas à reprocher à la majorité de s'imposer au Parlement. C'est connu. Les jeux démocratiques exigent que le regroupement qui a plus de députés puisse prendre plus de postes, mais quand même, les minorités étant aussi reconnues, c'était normal et c'est juste combat.
Justement, maître Frédéric Kwamba, le fait que l'opposition obtient seulement un seul poste sur les sept au bureau définitif, est-ce logique d'autant plus que l'opposition constitue une infime minorité, ou c'est logique parce que en politique, comme on dit, on ne se fait pas des cadeaux?
Les deux, parce que en démocratie, ceux qui gagnent en termes de majorité, ils ont beaucoup plus de droits, mais sans exclure les droits des minorités, parce que les minorités, on ne les gomme pas, on ne les efface pas. On leur accorde aussi l'occasion de s'exprimer, parce que le travail du Parlement, le Parlement c'est un bloc, c'est comme un corps. Le corps n'a pas les mêmes membres, il y a plusieurs membres, mais qui doivent tendre vers le bien-être des populations, parce que je ne pense pas que les députés vont travailler pour eux. Ils doivent travailler pour le bien-être, pour la paix sociale, pour beaucoup d'intérêts des populations que d'eux-mêmes. C'est ce qui est important. Que ce soit la majorité qui s'impose dans les bureaux définitifs ou qui reconnaît un seul poste à l'opposition ne peut rien changer sur les rôles du Parlement. Moi, je pense que si les députés de l'opposition ont des projets de loi, ont des reproches à faire au gouvernement dans le contrôle, et qui est utile pour le bien-être et qu'il les propose dans les formes acceptables, que la majorité s'y oppose. Si la majorité s'y oppose, elle peut agir contre le peuple. C'est ça le vrai problème, parce que les peuples regardent le Parlement comme un bloc, pas comme un bloc divisé. Donc toutes les décisions du Parlement sont les décisions du Parlement. C'est comme au gouvernement. Ils peuvent décider aujourd'hui de donner certains postes aux membres de l'opposition. Mais ils n'iront pas jouer l'opposition au gouvernement. Ils iront travailler pour l'intérêt des Congolais et du Congo. Donc c'est ce qui est important. Donc que l'on comprenne que dans les jeux démocratiques, il y a toujours lieu qu'une partie prenne la grosse part du gâteau et l'autre se retrouve avec ce qu'il mérite en rapport avec la bataille qu'il y a eu, donc les élections. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Mon problème était plus lié au temps qu'ils ont pris ou au temps qu'ils prennent pour finaliser, parce que vous êtes sans ignorer que le gouvernement doit passer par le Parlement pour son investiture. Donc, si le Parlement n'est pas en ordre, comment le gouvernement pourra commencer son travail? Donc, pour nous, il est utile que le Parlement termine tout ce qu'il a à faire et se mettre en ordre pour que les Congolais vivent quand même le travail du gouvernement. Nous pensons que nous avons perdu trop de temps pour rien.
Merci, Madame Gaëlle Kibungu. On a vu l'opposition qui s'est pliée, n'est-ce pas, à la volonté de la majorité et n'a pas voulu engager un bras de fer. Mais à votre avis, est-ce que cette opposition avait-elle raison d'exiger deux postes alors qu'elle se savait très minoritaire au sein de l'Assemblée nationale?
Ben écoutez, il faut toujours essayer, mais comme dit Maître Kwamba, c'est un jeu politique. Hein. Aujourd'hui, personne ne va faire de cadeaux aux autres. Quand on a la majorité, on ne cède pas ses positions aux autres. C'est un jeu tout à fait démocratique et normal. Mais maintenant, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. C'est déjà bien. Je salue l'opposition qui n'a pas voulu tirer en longueur ce qui prend déjà autant de temps. Il faut se focaliser sur l'essentiel, que les élus nationaux n'oublient pas le pourquoi de leur présence au Parlement. La population a le regard tourné vers eux. Ça veut dire que ce sont des mandataires de la population. Aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'au-delà de leur appartenance politique, ils ont le devoir de porter les questions cruciales, les questions importantes pour la population dans des vrais débats. Aujourd'hui, le Parlement doit nous ramener à de vrais débats qui emmènent des changements profonds dans la qualité de la vie des Congolais. Donc, c'est bien de se battre pour les postes, le positionnement, etc. Mais au-delà de ça, il faut apporter des solutions à travers des lois costauds, à travers des lois qui seront appliquées, qui seront d'abord bien faites et puis qui vont vraiment être appliquées. Il faut suivre ça à travers le travail du gouvernement, le contrôle parlementaire. Il ne faudrait pas que cette appartenance et cette majorité restent confortables dans sa majorité, au point de faire, on a toujours vécu ce protectionnisme des membres du gouvernement qui sont soit incompétents, soit qui viennent, on a vu plusieurs interpellations au cours des dernières années où il y avait des problèmes graves, des situations graves qui n'avaient pas trouvé de réponse parce que la majorité a couvert le membre du gouvernement qui était coupable de telle ou telle autre chose. Moi, je pense que c'est des choses qui ne devraient pas se répéter. Les élus nationaux doivent comprendre que leur mission est claire. Ils ont fait un serment à la population qui les a votés et ils doivent se rendre dignes de ce serment-là. On leur a accordé ce mandat. Ce n'est pas seulement pour aller se vautrer là-bas. Déjà qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au sein de la population. Quand on voit les émoluments grimper en flèche aujourd'hui, je crois que les Congolais sont inquiets par rapport à leur propre situation. Ils commencent à se poser des questions. Est-ce que les élus nationaux sont vraiment des personnes sur lesquelles ils peuvent compter? Donc il faudrait qu'ils alimentent cet espoir-là par des actes concrets, par des débats de qualité qui vont apporter des vraies solutions. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'élus nationaux, une fois élus, ne rentrent plus vers leur base. Ils n'ont plus rien à dire à leur base. Ils se préoccupent des avantages qu'ils récoltent au sein du Parlement. Alors qu'ils devraient rendre compte, ils devraient suivre l'évolution du quotidien de ceux qui les ont mandatés là-bas. Et ça ne s'arrête pas justement à ces débats-là juste politiciens. C'est vrai qu'il y a des mots d'or, etc. Vous ne vous détachez pas de votre famille politique quand vous intégrez l'hémicycle du Palais du Peuple. Mais n'oubliez pas la mission première, c'est d'abord de répondre à l'amélioration de la qualité des vies des citoyens qui vous ont envoyé là-bas.
Merci, Josué Blaise.
C'est vraiment la plus importante des choses.
Merci, Madame Gaëlle Kibungu. Josué Blaise Manakak, on en a parlé ici, des tractations pour la mise en place du gouvernement qui prennent beaucoup de temps. Et là, maintenant, ce sont les tractations pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui prennent aussi beaucoup de temps. Et à votre avis, quels pourraient être les enjeux par rapport à toutes ces tractations?
Oui, les problèmes sont identiques entre celui du gouvernement et du Parlement, parce qu'en réalité, chez nous, pour la plupart des pays africains, notamment au sud du Sahara, les questions qu'on se pose ne sont jamais les questions essentielles. C'est-à-dire qu'on ne pose jamais la question du comment, mais on pose la question de qui. Qui doit gouverner le pays? Qui doit être ministre? Non, comment doit être le gouvernement? Comment doit être dirigé le pays? Alors, ce qui revient donc à dire que parfois, on gagne une élection présidentielle et on commence à ne même pas savoir, c'est là où je tire encore chapeau au Sénégal. Des gens qui, visiblement, on était un peu inquiets parce que c'était pas un parti traditionnel, qui arrivait en moins d'une semaine et avec des profils respectables. Quand on lit les parcours, il y a que deux anciens qui ont été au gouvernement, notamment M. Mustapha Guirassy, qui a été ministre de la communication et porte-parole du PDS et très proche de Karim Wade. Le reste, c'est des gens qui viennent des multinationales, des Nations Unies, des entreprises privées. Des... Alors, quand vous regardez ce qui se passe en RDC, on a envie de se demander, mais est-ce que on a les gens qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut? On est toujours dans nos pays en train d'équilibrer plus les ethnies, les communautés, les partis politiques. Moi, je veux prendre un exemple. J'y rencontre beaucoup plus des compatriotes de nos pays dans la diaspora. Pourquoi on pense toujours, je crois, ce maître qui disait, tout le temps c'est les partis politiques, tout le temps c'est les partis politiques. Moi, je rencontrais un Congolais qui est en Suisse, qui est à la tête d'une grande banque. Il a son nom, m'échappe, attends, je crois, Junior Mbuyi, qui a des entrées auprès et conseille beaucoup de chefs d'État. Pourquoi elle ne viendrait pas, même pour quelques jours ou quelques mois, je ne sais pas. Il y en a certainement que si on s'assoit, enfin, un mélange, comme Maître disait, de ceux de la société civile et ma consoeur là, on prend et les nationaux, et en même temps, que les partis politiques restent quand même au niveau du Parlement, où on a déjà pratiquement désigné, pour le pire ou le meilleur des cas, Vital Kamerhe qui se bat pour quitter la vice-premier ministre du gouvernement pour s'installer ou persuader au Parlement. Alors, on peut à la limite encore laisser les politiciens se faire, quelqu'un a dit, c'est pas ma conseil ou maître, la répartition pratiquement du gâteau au Parlement, mais que le gouvernement soit quand même, par portefeuille, géré par des gens. Moi, je suis de très près, j'ai quelques amis dans les gouvernements ici et là. Je vous assure que, quand vous regardez ce qui se passe au Gabon, on peut tout dire, parce qu'aujourd'hui, les populistes ont gagné en Afrique, tout le monde est anti-français. C'est-à-dire que si on fait un coup d'État au Gabon, il n'est coup d'État que parce qu'on a dit, on supporte, on présente le drapeau russe, et on dit que vive Poutine, et on insulte Macron et la France. Ça, c'est vraiment des histoires qu'on peut voir dans les trois petits pays à des économies en lambeaux au Sahel. Regardez au Gabon poste par poste. Regardez au Sénégal poste par poste. Ils ont fait un gouvernement, ils sont allés rattraper quelqu'un comme le vice-premier ministre chargé des questions de l'économie et de la prospective. Monsieur Alexandre Barrault-Chambrier, c'est un ancien patron des grandes entreprises et de les multinationales, et en même temps un solide carnet d'adresse, il a été patron au FMI. C'est-à-dire qu'aucune institution financière ne peut fermer les portes compte tenu de ses entrées. C'est ça qu'on veut au gouvernement. Je vous dis que ce monsieur, je crois Mbouilly ou Paula Junior, a des entrées à des endroits où vous ne pouvez pas imaginer. C'est sûr que si on fouille, il y en a plein au Congo démocratique. Je vous prie vraiment, Monsieur le Président, Madame le Premier ministre, d'essayer quand même de faire quelque chose pour que ce pays qui est bientôt 100 millions d'habitants, avec un des sous-sols les plus riches, qui devait déjà commencer à jouer son rôle de locomotive au niveau de la CEAC et de la SADC, ne parvient pas à décoller économiquement, parce que comme disaient les deux prédécesseurs très prestigieux, confrères et avocats, que on est plus préoccupé par la partition et la répartition du gâteau et les équilibres géo-ethniques. Il nous faut les Ngombe, il nous faut c'est du Kivu, il nous faut. À la fin, on se retrouve avec une juxtaposition de communautés au lieu d'une juxtaposition de compétences.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Malaika de Boni M. On revient juste après.
Malaika. Nakupende malaika, malaika, nakupende malaika, nami nifanyeye, itwa na mwenzio, nashindwa la mali sena we, ningekuoa malaika. Shindwala mali sina we, ninge kuowa malaika. Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Namini panyeye. Ifwa na mwenzio.
C'était Malaika, interprété par le groupe Boni M, un groupe pop qui a fait parler de lui pendant les décennies 70 et 80. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Gaëlle Kibungu, elle est journaliste politique à Univers TV, une télévision qui émet de Kinshasa. Maître Frédéric Kwamba, membre de la société civile, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également membre du conseil d'administration de l'ONG Afiamama Asbel. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mangaka, qui est journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Des Quinois ont appelé mercredi 17 avril leurs élus provinciaux à s'abstenir de la corruption lors des élections de gouverneurs. Ils ont lancé cet appel lors des entretiens accordés à Radio Okapi. Certains Quinois disent attendre du futur gouverneur de Kinshasa les travaux d'assainissement de la ville à Kinshasa. Plus de 30 candidats sont déjà en lice pour l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur prévue le 29 avril courant. Ce scrutin sera couplé avec celui des sénateurs. En mars dernier, l'ONG Diakonia et l'Institut républicain international avaient exhorté les députés provinciaux de Kinshasa à éviter toutes sortes de corruptions et d'opérer des choix judicieux. Madame Gaëlle Kibungu, vous avez souhaité nous parler de ces sujets. On vous écoute.
Voilà, j'ai choisi ce sujet parce qu'on est encore là face à un grand rendez-vous politique, un grand rendez-vous de notre histoire. Parce que le théâtre en présence dans la capitale en ce moment, c'est quoi? C'est qu'on a déjà un gouverneur sortant, Gentil Ngobila, que tout le monde connaît, le gouverneur Pépère en 2019, mais qui a depuis intégré l'Union sacrée, mais dont le bilan est jugé négatif au sein de l'opinion publique. La situation est très éloquente quand même, la gestion a pour certains été très opaque, on n'est pas étonné des résultats, l'insalubrité est totale, il y a un désordre généralisé, avec des constructions de marchés, commerces, parkings, des moyens de transport anarchiques à travers la ville, sans oublier le banditisme urbain qui a pris des proportions inimaginables. Alors on constate amèrement qu'on est dans une ville qui n'est pas gérée, et à quelques jours de son départ, on voit qu'il y a des chantiers qui sont faits, alors que on se demande pourquoi ces routes n'ont pas été réhabilitées ou refaites depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, donc, les défis sont énormes par rapport à une ville en pleine expansion et devrait être repensée complètement. Il y a des problèmes de démographie énormes. La population ne fait qu'augmenter au quotidien et il faudrait penser à des solutions pérennes une fois de plus. Donc, il serait dommage aujourd'hui, on sait que l'élection des gouverneurs, comme vous venez de le dire, se fait au suffrage indirect, donc par les députés provinciaux. C'est une question de conscience, là encore. Et les Quinois ont bien raison d'interpeller leurs élus provinciaux. Parce que aujourd'hui, il se dit qu'il y a cet aspect financier qui joue énormément dans l'élection du gouverneur. Et ça serait dommage qu'on ne s'arrête qu'à ça, alors qu'aujourd'hui, c'est la vie des populations qui est en jeu. C'est la vie d'une capitale, Kinshasa, qui était appelée jadis Kinshasa la Belle, et qui présente un pôle, qui pourrait être un pôle économique très important, non seulement pour la RDC, mais pour l'Afrique tout entière, qu'elle soit réduite à un choix purement financier ou purement politique. Comme il s'agit de la question des ministres et mais également des députés, il faudrait qu'il y ait plusieurs facteurs, plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire d'abord la compétence, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on table sur la compétence. On a vu qu'il y a plusieurs gouverneurs, plusieurs candidats, vous l'avez dit, quand on parcourt les profils, c'est vrai qu'il y a différents secteurs, etc. Mais il ne faudrait pas qu'on aille sur la fibre émotionnelle ou purement politicienne. Il faudrait qu'on recherche cette perle rare qui est capable aujourd'hui de redresser la capitale de la République démocratique du Congo et de l'emmener à des dimensions où on l'attend. C'est pas possible de continuer à vivre dans ce désordre ambiant. On a l'impression qu'on est vraiment dans une ville de sauvages. Kinshasa, aujourd'hui, qui reçoit pourtant énormément d'investisseurs, qui reçoit en bois les immeubles poussés comme du champignon, mais quelles sont les retombées? Quel est l'environnement que l'on offre à nos générations futures? Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils vivent dans quelles conditions? Pas d'électricité, pas d'eau, comme en pleine brousse.
Madame Gaëlle Kibungu, autant pour les tractations pour la formation du gouvernement et les tractations pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, on sent que aussi dans les tractations pour, n'est-ce pas, désigner ou choisir les gouverneurs de la ville de Kinshasa, c'est beaucoup plus les partis politiques qui semblent imposer leur logique et du coup, on risque d'avoir quelqu'un qui sera à la tête de la ville. Parce que c'est un homme qui peut être redevable vis-à-vis des partis politiques, donc on risque de sacrifier la compétence au profit, n'est-ce pas, de la complaisance.
Exactement, et ça serait vraiment dommage. Je crois que le chef de l'État a son deuxième mandat, est normalement sur base de la Constitution son dernier mandat, et il serait vraiment dommage pour l'Union sacrée, par exemple, qui est sa famille politique, de pouvoir sacrifier tout un mandat juste pour des positionnements politiques, pour un enrichissement personnel, etc. Je pense qu'à l'heure où on est, c'est vraiment, l'heure est grave en fait, il faudrait vraiment pas se leurrer, on n'a pas de temps à perdre, on a une situation sécuritaire désastreuse, à côté de ça, on a des problèmes socio-économiques énormes. Est-ce que c'est encore le temps vraiment de se battre autour de positionnements personnels? Non, je ne pense pas que c'est, on en est encore là. Je pense qu'on devrait arriver à une certaine maturité face aux problèmes cruciaux que connaît la population aujourd'hui, de lever le débat et de pouvoir arriver à des solutions. On va tourner en rond d'année en année autour de positionnements politiques qui ne donnent rien. Aujourd'hui, on nomme tel parce que c'est le lendemain, il saute, on remet, c'est toujours le partage du gâteau. Et qu'est-ce que ça donne sur le plan de la population ? Rien n'avance. Non, je pense qu'aujourd'hui, les politiciens doivent savoir qu'ils sont redevables vis-à-vis de la population. Il y a cette obligation de redevabilité. Souvent, les politiciens oublient cela. Aujourd'hui, quand on entre, on est installé, on gagne un mandat, on est à un poste politique, c'est pas pour son intérêt personnel, c'est pour servir la nation, on est au service de la nation. Je crois qu'il faudrait un exorcisme mental, celui qu'on après lequel on court depuis de nombreuses années, pour que ces politiciens sachent qu'ils ont un exercice de probité morale d'abord, qu'ils doivent travailler pour le bien-être de la nation. Et pour ça, il faudrait qu'on arrête un peu la complaisance. Déjà, le problème, c'est que le système a déjà mal commencé, mais il n'est pas tard pour arranger.
Merci, Madame Gaël Kibungu. Josué Blaise Manakak, pour le poste de gouverneur de Kinshasa, là aussi, beaucoup d'ambition se manifeste. À votre avis, comment l'Union sacrée devrait-elle procéder pour gérer toutes ces ambitions afin d'éviter, n'est-ce pas, de choisir ou d'imposer à la tête de cette ville quelqu'un qui ne sera pas différent des gouverneurs précédents?
Déjà, en réalité, c'est maître... ma consoeur, hein, que je tire un chapeau.
Gaël Kibungu.
Une analyse froide. Oui, je crois, du TV, quoi. J'oublie la télévision.
Univers TV. Univers TV.
Voilà, super. Alors, elle a tout dit avec les termes qu'il faut, sans parti pris, ni chauvinisme, sans complaisance. En réalité, les villes comme Kinshasa devaient être comme Abidjan, Dakar, Libreville, Brazzaville ou autre, c'est-à-dire la vitrine du pays. Alors quand on veut être ministre Abidjan comme l'a été M. Mabré, qui est aujourd'hui Premier ministre, c'est-à-dire qu'on l'a choisi d'abord pour ses états de service et ses qualités humaines en Côte d'Ivoire. Alors donc je crois que Kinshasa aujourd'hui mérite, parce que le prédécesseur de celui qui arrivera, je crois qu'on peut dire, ou ne pas être en accord, on a passé pratiquement les trois dernières années à le canarder, et je ne vois pas des efforts qu'il a fait personnellement pour être épargné de la colibère qui lui atterrissait comme une pluie en septembre. Alors, donc je pense que nos pays, notamment hormis la capitale, parce que vous savez, les élections de proximité, on vote quelqu'un parce qu'on le connaît. Mais on doit aussi voter quelqu'un parce que non seulement on le connaît, mais on est proche sur le plan communautaire, géographique, culturel et autres. Mais on devait quand même, comme l'a dit ma chère consoeur, regarder un tant soit peu sa compétence. Parce que la compétence devait être, je crois, le leitmotiv de toute élection, notamment celle de proximité. La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec l'histoire. Vous pouvez avoir été tout ce que vous étiez. Vous avez vu, ça devait servir de leçon à tous les Africains, à tous les humanistes et à toute l'humanité. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est-à-dire, je suis sûr, ce monsieur a 3 mois, personne ne le voit, y compris lui-même. Ça, c'est les élections présidentielles, c'est la rencontre entre un homme, l'histoire et son peuple. Par contre, maintenant, les élections de proximité, on peut voter quelqu'un pour lequel, par exemple, j'ai regardé sur les listes, il y a quelqu'un comme le fils, le petit-fils, je crois, ou arrière-petit-fils de Kibangu. Je ne suis pas sûr. Le seul nom qui traîne est le fanatisme religieux qui l'entoure. Il doit peut-être passer. Mais quand quelqu'un comme ça passe, je crois qu'on doit pouvoir l'entourer de l'efficacité des équipes. Ce n'est pas seulement voter les symboles. Donc, plus grave encore, une ville comme Kinshasa ne devrait pas faire la moindre fantaisie quand il s'agit de l'élection de son personnage phare, pour c'est-à-dire qui peut diriger Kinshasa s'il le fait bien. Il n'est pas exclu qu'un jour il dirige le pays, parce que quand même Kinshasa, c'est une ville-pays. Bon, bah là, je crois que nos pays gagneraient à ce que les villes comme Abidjan, Dakar, Libreville, Conakry et autres, Brazzaville, Kinshasa, soient des vitrines de succès. Quand on arrive là, on n'a pas envie de faire tout le pays, on a déjà une idée de ce que c'est que le pays.
Merci, Maître Frédéric Kwamba. On va finir cette émission avec vous. Le gouverneur dans cette ville de Kinshasa se succède et apparemment se ressemble parce qu'à chaque gouvernement, on a l'impression que la ville n'est pas gérée. Et à votre avis, que faut-il pour que cette fois-ci, l'on choisisse un gouverneur qui pourrait proposer une gouvernance efficiente?
Merci, Monsieur Maté. Moi, je vais partir de ce que mes prédécesseurs ont dit, Madame Gaëlle et Monsieur José Blaise. Donc, je vais juste renchérir à ce qu'ils ont dit parce que c'est correct. Je vais prendre juste deux termes, exhortation et redevabilité. L'exhortation, c'est ce que nous faisons. Il faut exhorter les députés provinciaux à élire les personnes qui méritent notre ville capitale, ville-province de Kinshasa. Et de l'autre côté, est-ce que les candidats qui viennent de l'autre côté ont-ils le souci de faire quelque chose pour Kinshasa? Ça, c'est un côté entre les deux réalités. Nous savons tous que les députés eux-mêmes, les députés provinciaux eux-mêmes, pour accéder à ces postes, comme ce sont des postes où l'on passe à travers les élections, ont-ils été corrects? N'ont-ils pas sorti de l'argent à donner aux électeurs? Pour devenir députés provinciaux, nous savons comment les élections se passent chez nous. Et qu'est-ce qui va se passer avec les candidats qui viennent maintenant solliciter leur voix en retour? C'est supposé que l'argent va circuler malgré que l'on parle de lutter contre la corruption pour que les meilleurs puissent l'emporter ou les plus méritants puissent l'emporter. Donc c'est une grande difficulté, c'est ainsi que le terme exhortation est plus mieux à placer, c'est-à-dire il faut prier à tous ces gens-là d'être quand même conscient de l'avenir de cette ville qui est en train de s'écrouler sous le plan de ces colonnes d'antan. Et le deuxième terme, c'est la redevabilité. Dans une ville où on n'a jamais poursuivi un seul ancien gouverneur, donc tous ont bien travaillé, si on doit conclure, si on poursuit un seul pour avoir mal géré, je pense que ceux qui viendront après lui pourront faire l'affaire. Mais nous sommes dans un pays où ceux qui viennent à la gestion de la chose publique, même quand ils ont mal agi, au vu et au su de tout le monde, on les laisse partir. Et celui qui viendra aura peur de quoi si lui aussi est tenté de faire le mal contre la ville de Kinshasa. Donc c'est pourquoi moi je veux me résumer sur les deux termes. On exhorte quand même d'un côté, mais nous voulons qu'il y ait quand même la redevabilité sur ceux qui ont géré, qu'ils rendent compte de leur gestion. Et ceux qui viennent aussi mettent en tête qu'ils sont redevables à la population qui vit à Kinshasa.
Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Gaëlle Kibungu, Monsieur Josué Blaise Manaka et Maître Frédéric Kwamba. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe à la présentation Glimaté. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Kezwa Sengo de Didier Masela, chanson sortie en 1993, extrait de l'album Kalai Bungi dans l'orchestre Wenge Musica BCBG. Et on se retrouve le samedi prochain.
Passi na passi. détresse qui sont passés en détresse. Mawa manga maleki mera. Awa sali kaka koka nga mote ma papa. Me pinto li pe papa ukate. Oyo yanga li sumu se lantwele ki ma sumu nyoso. Yo pe koki koela yo tuta li baku. Lokolo mali na iyo manata li
Emma, Lusambo, Kulutu, Tonton Deli, Mami Baestor, Vasco de Gama, Irvin Bango, Aimé Makanda Aguilera, chassé na Canada.
Atala mitumba na bolingo etali mbonge ya lamu, atala kasuwa na lola mwona mutu koyo linaka. Oya yo ele kimbeka o, papa sezo ansengo. Atata na mitumba na bolingo etali mbonge ya lamu, atala kasuwa na lola mwona mutu koyo linaka. Oya yo ele kimbeka o, papa sezo ansengo.
Naleli yeye kadafi chafu Naleli yeye nono yenu Naleli yeye jidelo mangai Naleli yeye rambina larita Mere kabishi yeye romeli zuna Nose kala
Matata na bitumba na bolingo eta limbonga ya lamu Matata suwa na lola muna mutu
Linaka, oh yeah, 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 Nasili maele pona poluka gaso pongo e Kamenga bitane Oni apanyo polunga peswa Nasili maele pona poluka basuswe Ifende pola o
Matala bitumba na bolingo eta limonge ya lamu Matala kasuwa na lola mwona mutu koyo linaka
Oya ya ele que me cao, papá de su alcengo. Ya bolingo, solo es la precia que te oh, que su alcengo.
Tala no que oso,
la beli bongo.
Wale na motema,
kirino kirino.
Wale na motema,
noe zola na ye.
Wale na motema,
eje mando zoma.
Wale na motema,
bea chantale zobao. Bol pizana.
Atata na bitumba na bolingo eta limbonge ya lamu. Atala kasuwa na lola muna mutu koyo linaka. Oya yo ele kimbeka o. Papa, três, um, três, um.